des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. En queue de peloton, la fraternité peine à rejoindre ses deux grandes sœurs que sont la liberté et l'égalité. Concept glissant qui échappe aux mains malhabiles des politiciens, la fraternité est pourtant porteuse d'une idée forte, quelque part entre la bienveillance et le respect. La fraternité, c'est autour de ce concept que nous nous retrouvons, le docteur Dominique Demichel et moi-même, pour cette quatrième et dernière émission sur le sujet.
Un État moderne, un État d'après-demain, c'est un État qui aidera chacun à réussir sa vie. C'est-à-dire à choisir ce qu'il a envie d'être, à définir son rêve et à créer les conditions pour qu'il réalise. Et c'est possible, c'est possible. Il est possible de créer les conditions pour que chacun puisse réussir sa vie et ne se tourne pas vers son passé en disant « la vie est passée, je l'ai perdue ». Et ça, c'est, je crois, le rôle fondamental d'une société. Alors, c'est plus du côté de la liberté, parce que ça permet aux gens d'être libres, mais c'est aussi du côté de l'égalité, parce que c'est le fait de créer les conditions pour que tout le monde puisse y parvenir. Et la seule façon de faire que les deux soient compatibles, ça s'appelle la fraternité, ou plus modernement, l'altruisme.
Liberté, égalité, fraternité, c'était le thème d'une émission ce soir ou jamais qui a été diffusée le 11 octobre 2014 et il y avait Jacques Attali, entre autres, qui était invité avec François Dubé ou encore Éric Zemmour, encore la philosophe Cynthia Fleury. Jacques Attali ici nous donne sa définition quelque part de la fraternité, docteur Dominique Demichel, c'est-à-dire ce concept entre la liberté et l'égalité et ce concept que lui appelle l'altruisme. Mais on voit bien également que la fraternité de Jean-Claude Attali, elle passe par un individualisme assez forcené parce qu'il faut d'abord se réaliser soi-même et puis en tout cas aider les autres. Peut-être la fraternité est là à se réaliser, mais on est loin d'un lien de solidarité, me semble-t-il en tout cas. C'est complexe, hein.
Il y a beaucoup de choses dans votre question. Surtout, il y a beaucoup de choses. Faudrait que je les reprenne une à une. Alors, je vous redis un petit peu ce que ça évoque en moi, en fonction de ce que vous avez dit. Peut-être la première idée que j'ai retenue, en tout cas, ou celle qui est la plus présente là en moi, me fait penser que les conditions de la relation à l'autre sont extrêmement, extrêmement déterminés par les conditions de la relation que l'on a avec soi-même. Hein. Ça, c'est tout à fait déterminant. Donc, je crois que, pour faire court et en le disant simple, les gens qui s'aiment pas eux-mêmes, eh ben, en gros, ils ont quand même du mal à aimer les autres. Et globalement, à contrario, les gens qui s'aiment bien eux-mêmes, c'est plus facile. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment les autres, mais c'est plus facile pour eux, en tout cas, à mon avis, d'aimer les autres. C'est-à-dire de projeter le rapport qu'ils ont entre eux et eux-mêmes, sur les autres.
Sauf que parfois, se tourner vers les autres peut nous permettre de nous découvrir et puis d'apprendre à nous aimer, comme un, parfois un bon coup de pied aux fesses.
C'est-à-dire qu'il faut le coup de pied aux fesses alors dans ces cas-là. Voilà,
c'est-à-dire être auto-centré, sans s'aimer toute sa vie, ça n'avancera à rien. On peut le rester toute sa vie, en effet.
C'est vrai. Mais alors, j'entendrai ce que vous appelez le coup de pied aux fesses comme l'expérience de la souffrance. Alors, si c'est l'expérience de la souffrance, il y a deux possibilités par rapport à la souffrance. Ou on s'enferme encore plus, ou du coup, on tente de faire quelque chose de cette souffrance.
Et un départ vers une altérité extrême, par exemple, voyager tout simplement. On sait bien que les voyages, ça permet de s'ouvrir à l'autre quand on voyage intelligemment, bien entendu.
Oui.
Ça permet de s'ouvrir aux autres et puis de découvrir autre chose qui nous est parfois radicalement différent, qui va nous permettre de, quelque part, de nous enrichir aussi et puis de nous comprendre quelque part.
Oui. Non, mais je crois que ce que vous dites, c'est très, très important et très juste. Mais ça nécessite déjà, pour pouvoir partir, qu'il y ait quelque chose de...
Ouais, d'une curiosité, enfin d'un appétit en tout cas pour l'autre.
Voilà, donc on a déjà envie de faire quelque chose. Ce matin, c'est intéressant parce que je recevais, dans le cadre de ma consultation aux douleurs à l'hôpital, je recevais une femme qui a une histoire somatique extrêmement compliquée. Et elle me parlait surtout de sa sœur en disant « Ma sœur, de toute façon, elle est toujours au Mexique, au Japon, ailleurs, elle n'arrête pas de fuir ». Et au fond, on a pu discuter ce matin du fait qu'il y avait quelque chose probablement de la fuite, c'est-à-dire ce que je vis là, ça n'est pas vivable, mais qu'en même temps, il y avait quelque chose de très structurant, hein, parce que probablement, elle en faisait quelque chose. À la fois, elle se protégeait, mais elle découvrait la possibilité de vivre autre chose.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Attali, fraternité égale altruisme ?
Alors, je ne sais pas, je dirais ça comme ça. Je dirais que ce qui est intéressant à noter, c'est que dans fraternité, il y a le mot frère, et que dans le mot frère, ça nécessite qu'il y ait deux personnes. Et dans altérité, il y a alter. Alter, ça veut dire l'autre. Hein. Ça a donné, il faut se rappeler, le mot altération, par exemple. Hein. Quand on dit qu'on a un état de conscience qui est altéré, c'est-à-dire qui devient autre. Quand on dit qu'on a une altération de son état de santé, ça veut dire que son état de santé devient autre que ce qu'il était. Hein. Donc, on trouve cette notion de l'autre. Et je pense que l'expérience fondamentale de la fraternité, c'est l'expérience de l'altérité. Hein. C'est-à-dire, c'est à chaque fois que cette altérité est complexe que la question de la fraternité se pose. Hein. Si, il n'y a jamais de question de fraternité lorsque l'autre est exactement le même que moi-même. Hein. Donc cette dimension-là est importante. Je crois que dans ce que dit Attali aussi, il y a une dimension tout à fait essentiel, en tout cas qui me plaît beaucoup, que je n'avais pas entendu dans sa bouche ou lu dans certains dans les livres que j'ai lus, de ses livres à lui, qui est cette notion de réussir sa vie, en effet. Probablement, être heureux, pouvoir être heureux, ça n'est pas ne pas avoir de soucis, hein. C'est avoir le sentiment qu'on avait un projet, même si ce projet, il est incertain, même s'il est obscur, même s'il est mystérieux, et avoir l'intime conviction qu'on est dans le bon sens, dans son projet, et que au bout du parcours, que ce soit le parcours d'une année ou que ce soit le parcours d'une vie, on ait le sentiment qu'on ait été dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on ait réussi quelque chose de son projet. Alors, la fraternité, c'est...
Revenons-en à l'altérité, oui. Et puis forcément aux confrontations qu'elle peut engager avec un espace à soi, un espace à l'autre, et puis parfois donc cette confrontation.
C'est vrai qu'on peut toujours se poser la question en se disant, mais au fond, qu'est-ce qui nous porte à cette fraternité ? Il me semble que le désir à l'intérieur de soi, le moteur du désir, ce qui serait une exigence presque morale ou une exigence éthique, elle vient autant de soi que de l'autre. C'est-à-dire, ça vient de l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi l'autre, dans sa présence à moi, il se pose comme étant différent, il me questionne, et il est difficile, de temps en temps, de l'écouter, de le supporter, d'entendre ou d'écouter ce qu'il me dit. Dans cette altérité, il vient m'interroger. Et dans cette interrogation, je vis une épreuve. C'est l'épreuve du fraternel. J'ai envie de dire tout de suite, pour que nos auditeurs puissent l'entendre sur les deux plans, que cette altérité, elle se joue avec l'autre extérieur, c'est-à-dire celui qui est potentiellement mon frère ou mon ennemi, ce qui peut être la même chose. Hein. Il y a toujours de l'amour et de la haine dans tous les liens. Le contraire de l'amour ou de la haine, c'est l'indifférence. C'est important, il me semble bien, de le rappeler. Il faut dire que ça, cette exigence, ce questionnement de l'altérité se pose avec l'autre, mais il se pose aussi à l'autre, avec l'autre à l'intérieur de moi. Pourquoi ça? Parce que quand l'autre dit quelque chose ou pose un acte qui est radicalement différent de ce que je crois, il vient interroger aussi cette partie de moi-même qui a du mal à accepter, à écouter, parfois même simplement à entendre ce que l'autre dit.
J'entends le mot respect qui pourrait entrer dans cette équation de autre plus fraternité. Il doit y avoir du respect à un moment donné, quoi.
Oui, alors ça c'est les fondements de la vie en communauté ou les fondements de la morale hein, qui reposent sur deux choses, hein, le respect et la bienveillance. Hein. Ces deux choses sont importantes parce qu'on peut respecter l'autre et puis finalement, j'allais dire, le laisser mourir dans un coin au nom du respect. Donc le respect est important, mais il ne suffit pas. Et puis il y a la bienveillance, c'est-à-dire j'ai envie de veiller au bien de l'autre, hein, donc d'accueillir son altérité et de l'aider à porter lui aussi son identité, son histoire et la possibilité, pour reprendre les mots de Jacques Attali, la possibilité de réussir sa vie. Hein.
Alors quelle serait la finalité de la fraternité justement ? À quoi ça servirait au fond d'être bien avec son voisin ? J'ai qu'à mettre un mur et puis chacun chez soi, quoi.
Alors,
ce qu'on voit beaucoup dans pas mal de pays,
le fameux
communautarisme, c'est un petit peu ça.
Oui, tout à fait. Alors je pense qu'il y a deux perspectives dans la finalité d'un lien fraternel. Oui. Je dirais, il y en a un qui est très pragmatique, qui est que, en gros, quand on arrive à vivre à peu près comme des frères, c'est quand même plus tranquille. On pourrait dire d'ailleurs que le fondement le plus archaïque et le plus pulsionnel du bien et du mal, c'est que quand c'est la guerre, c'est plus pénible que quand c'est la paix. Donc tout le monde a envie de l'avoir de la paix parce que c'est plus confortable.
Sauf voilà. Quelques excités qui vont du coup engendrer les guerres. Mais...
Voilà, mais on est dans ces cas-là. Enfin, s'il y en a un qui préfère la guerre pour des raisons qui sont juste la préférence par rapport à la guerre, on est dans la perversion. Hein. Donc la perversion, on n'est pas dans une problématique de normalité. C'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Et c'est d'ailleurs intéressant que vous nommiez ça, parce que même si on fait un détour et qu'on ne suit pas, peut-être, enfin que je ne suis pas toujours votre questionnement, je rebondis un petit peu là-dessus. S'il y a une bonne définition de la perversion, c'est l'inexistence de l'autre. Hein. Dans le pervers, lui, pour le pervers, il n'y a pas d'autre. Hein. On voit ça d'ailleurs dans le masochiste. Hein. On pourrait prendre l'exemple du sadique et du masochiste. Le sadique, lui, c'est tout pour lui et tout pour son plaisir, et l'autre ne compte pas. Et pour le masochiste, c'est tout pour l'autre et lui ne compte pas. Hein. Donc vous voyez, dans les deux cas, on est dans une position qui est un peu perverse. C'est-à-dire, pour le sadique pervers, il n'y a pas d'autre, il n'y a qu'un objet. Et pour le masochiste pervers, il n'y a qu'un autre, c'est l'autre, et lui, il ne compte pas. Donc vous voyez, c'est, dans les deux cas, c'est absolument tragique. C'est pour ça qu'ils s'entendent si bien, en général.
Alors, revenons à la majorité qui, j'espère, n'est ni perverse ni sado.
Voilà. Donc dans la grande majorité des cas, le fait de requérir cette fraternité, c'est parce que c'est plus confortable. Bon. En même temps, on peut se rappeler que les hommes n'ont pas besoin de s'aimer pour s'entretuer. Donc on pourrait se dire, bah oui, on fait la paix, et puis à la limite, on pourrait penser qu'il y a une espèce de pseudo-lien fraternel où le fraternel serait tenu par le mur que vous évoquiez. Hein, c'est-à-dire, voilà.
Une tolérance qui ressemble fort à de l'indifférence, quoi.
Voilà, exactement. Ou par le fait qu'il y a un pouvoir qui impose du silence. Hein. Par exemple, je sais pas, moi je me souviens quand les enfants étaient petits, dans la voiture, et qu'il commençait, c'était un peu la bagarre derrière, on disait, bon, pendant, je regardais la montre sur le tableau de bord, bon, pendant une minute, tout le monde se tait. Et puis voilà, on impose quelque chose, c'est-à-dire on met une espèce de barrière, en l'occurrence, pas de langage, pas de parole, pas de geste. Et puis voilà, mais on n'est pas là, pour ceux qui étaient derrière, dans une fraternité assumée. Donc je crois que s'il n'y a pas de sécurité durable sans une fraternité, la fraternité en même temps, elle requiert autre chose. C'est là où je crois que il y a lieu de penser que, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire il y a aussi dans l'expérience fraternelle la découverte de l'autre, c'est-à-dire la rencontre de l'autre. Et dans cette rencontre, on a un gain d'être. Donc, ce qui me semble important, c'est de se dire qu'il y a une utilité immédiate à court terme de la fraternité, c'est-à-dire on n'est pas en guerre, mais dans la fraternité, il y a la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'augmenter et d'élargir son champ de conscience, donc d'arriver à être plus juste par rapport à soi-même, donc, a priori, de mieux réussir sa vie, ce qui probablement compte parce que c'est ça qui contribue au bonheur. Et que finalement, sur Terre, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est d'être heureux. Hein ? Alors ça passe par plein de choses, par plein de déclinaisons, dont en particulier l'expérience de l'altérité, la solidarité, mais aussi cette fraternité qui vient justement témoigner de la possibilité de faire plus d'être grâce à ce lien-là.
Parce que je me suis dit, si on laisse par exemple une totale liberté, si on laisse par exemple la liberté à Liliane de gagner 30 milliards de dollars, est-ce que derrière on peut réclamer l'égalité de tous gagner pareil? Et s'il n'y a pas d'égalité, est-ce que derrière on peut rester frères? Parce que c'est vrai que moi je me suis dit, tu prends Cain et Abel, s'ils avaient eu tous les deux des agneaux et Cain il n'avait pas des betteraves à montrer à Dieu, ce ne serait pas passé comme ça. Les deux ils seraient restés frères un peu plus longtemps. Donc je me suis dit peut-être qu'en fait à l'origine c'était pas une devise mais une question. Est-ce que liberté, égalité, fraternité, c'est pas le reste d'un vieux QCM où les révolutionnaires, ils devaient voter, taper 1, liberté, 2, l'égalité, 3, fraternité. Le problème, c'est que comme les têtes sont tombées avant les résultats, on n'a jamais eu le réponse du scrutin.
Liberté, égalité, fraternité, eh bien voilà une dernière définition après Jacques Attali, celle de l'humoriste Nicole Ferroni, qui pour elle voit cette devise comme un QCM inachevé par les Républicains. Docteur Dominique Demusset, je vous ai vu sourire, finalement y aurait à redire sur la vision de la fraternité de Nicole Ferroni.
Moi, je trouve d'abord que son discours est peut-être tout à fait drôle, mais extrêmement profond, parce que c'est une vraie question de savoir qu'est-ce que c'est que ce meurtre originel. On en a déjà parlé lors des émissions précédentes avec Seth et Osiris, avec Romulus et Rémus, avec Théocle et Polynice, enfin avec tous ces gens-là. Mais en tout cas, dans notre mythe chrétien ou dans notre mythe occidental, Cain et Abel, c'est quand même un vrai problème hein, que ça commence quand même si mal. Alors, moi, ce qui me semble important de dire, et j'ai envie de me différencier de cette femme qui parle, même si je trouve que c'est vraiment très intéressant, c'est que les enjeux de frérocité, hein, j'appelle cette frérocité, c'est-à-dire ce mélange de terreur, de haine, et puis en même temps de fraternité, c'est jamais une histoire par rapport aux objets. Hein. Quand, au moment des successions, il y a des conflits, entre les frères et sœurs, entre les enfants, c'est pas pour des histoires de petites cuillères ou même d'armoires normandes. C'est toujours un rapport à « oui, mais toi, maman t'a plus aimé » ou « papa t'a plus aimé » ou « moi, j'ai été le mal aimé hein. ». Donc derrière, entre Cain et Abel, c'est un rapport qui ne se joue pas entre les agneaux d'un côté et les betteraves de l'autre, ça se joue au niveau de l'être. Hein. C'est-à-dire au fond, Cain, lui, il ne supporte pas que son offrande n'ait pas été agréée par le Père, c'est-à-dire par le divin. Alors, il faudrait dire énormément de choses là-dessus. Le texte est extrêmement complexe. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que Cain, il rejoint son frère dans son champ. Et le texte est étrange parce qu'il dit « Cain dit et il le tua », en gros. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait essayé de dire, il n'a pas pu dire, et la seule façon de résoudre sa souffrance à lui, ça avait été tuer l'autre. Alors, ça va être l'occasion, mais je pense qu'on refera ça dans une émission d'après, de revenir au fait que Caïn et Abel, c'est probablement le même personnage. C'est-à-dire, à l'intérieur de nous tous, il y a un Caïn et il y a un Abel, et voilà, et il y a cette lutte fratricide à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, Caïn, il est dans l'impossibilité de parler, il est celui qui n'a pas choisi, tandis que Abel, probablement, il est celui qui a choisi, mais c'est une toute autre histoire.
Oui. En tout cas, c'est bien malheureux que les objets ne soient pas au cœur du problème, ça serait beaucoup plus simple à résoudre, parce que cette fraternité dans notre société dans laquelle nous vivons, elle paraît parfois totalement illusoire ou utopique, et en tout cas très difficile, souvent, à mettre en œuvre.
Oui, je me souviens avoir lu il y a une quinzaine de jours à peu près un interview d'Elisabeth Badinter, je crois que c'était dans le journal Le Monde au mois de juin, en tout cas 2016. Elle disait « J'ai deux valeurs, l'égalité et la liberté, c'est un vade-mecum très simple pour moi ». Et elle disait qu'elle avait laissé tomber la fraternité, ça m'a fait un petit peu mal. Parce qu'elle disait que à notre époque individualiste, ça relevait du mythe, voilà, que c'était complètement illusoire. Donc ça rejoint un petit peu, il me semble, ce que vous dites. Mais je trouve que c'est quand même un peu tragique parce que dans l'expérience de la fraternité, il y a quelque chose de fondamental. Alors les gens qui sont un peu savants disent la fraternité c'est un mot un petit peu flou, les psys disent ça a un signifiant flottant, c'est-à-dire c'est un signifiant mais on ne sait pas très très bien ce que ça signifie, c'est-à-dire ça porte quelque chose de riche mais on ne sait pas exactement quoi. Et j'aime bien moi ces mots de Paul Valéry qui dit certains mots ont plus de valeur que de sens. Ça rejoint la même idée, hein, c'est-à-dire dans le mot fraternité il y a une espèce de grande valise. Une valise qui est une potentialité de quelque chose. On n'est en général pas très très à l'aise parce qu'on a envie de la revendiquer et puis on se dit, bon, on n'est quand même pas très très doué pour la vivre au quotidien, dans son couple, dans sa famille, avec ses collègues, avec les voisins, comme ça. On aimerait la mettre au cœur de la relation et c'est difficile. C'est-à-dire, elle est profondément estimable, elle est profondément estimée, elle a une grande valeur symbolique, mais c'est difficile de la mettre en l'œuvre.
Et pourtant, donc, beaucoup de gens continuent à se battre pour elle, parce qu'il serait plus simple, en effet, de la laisser totalement tomber. Je pense à notre société française, ça serait peut-être plus simple de la laisser totalement tomber et de retrouver quelque chose de beaucoup plus communautariste, comme dans d'autres pays, comme les pays anglo-saxons. Mais on sent que c'est quelque chose, malgré tout, c'est désirable, et on y tient, cette fraternité.
Moi, je crois que, comme le plus transcendant des désirs, il y a une dimension pulsionnelle dedans. C'est-à-dire, la fraternité, elle est au cœur de notre pulsion. Je pense que, regardez dès qu'il y a un drame, hein, et puis la France, quand même, n'en a pas été exempte ces derniers temps de drames. Regardez comme, d'emblée, il y a un élan, on dirait, de solidarité qui se déploie, et un élan de fraternité. Je voyais un article, j'ai lu hier soir un article dans Le Monde, de quelqu'un qui disait, par rapport aux événements de Nice, qui ont eu lieu là récemment, qui disait, voilà, j'étais complètement paniqué, et j'ai été tout de suite pris en charge par deux Maghrébins. Je tiens à préciser, il s'agissait de deux Maghrébins. Voilà, on pourrait se dire, vous voyez que dans cette expérience d'une altérité qui n'est pas toujours facile à vivre pour nous, parce que nous avons tous notre noir, notre vert, notre jaune, notre rouge, notre bleu, c'est-à-dire celui qui est fondamentalement différent de nous et qu'on a du mal à accepter, il y a à chaque fois qu'on est dans une situation où le sacré, en l'occurrence ici le sacré de la vie, est convoqué, alors je pense qu'il y a cette pulsion fraternelle. C'est peut-être un peu naïf ce que je vais dire, mais au fond j'y crois, cette pulsion fraternelle qui est prête à ressurgir.
Alors peut-être, selon vous, est-elle si difficile à mettre en œuvre parce que au niveau au-dessus, c'est-à-dire même au niveau des États, cette fraternité elle est de façade et on sait bien que ce sont les intérêts économiques, voire stratégiques qui priment avant tout et s'il faut abandonner quelque chose, on abandonnera d'abord la fraternité avec un autre peuple.
Oui, je pense que là, ce dont vous parlez, il me semble, enfin en tout cas je l'entends comme ça, c'est la tension entre l'être et l'avoir. Hein. C'est-à-dire pendant pas mal de temps, le moteur a été le progrès étant de pouvoir vivre dans des conditions qui étaient plus faciles. et puis qu'il y a cette mutation où on est passé du progrès au profit, c'est-à-dire où il ne s'agissait pas d'augmenter la qualité de vie, mais il s'agissait d'augmenter les objets qui accompagnent. Mais je pense que on sait bien que les objets, ça remplit pas. Donc voilà, moi fondamentalement je crois à la fraternité. Je crois en tout cas au fait que elle est là, prête à ressurgir, prête à se déployer, et que je ne pense pas avoir rencontré dans mon existence de gens qui, lorsqu'ils ont pu apaiser quelque chose de leur propre souffrance, ne se soient pas laissés tenter par la fraternité.
Malheureusement, il est l'heure de nous quitter. Ainsi s'achève donc cette série d'émissions sur la fraternité. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre thème. D'ici là, restez fraternels.
There's no